Bonjour Anthony Samrani.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Nous voici au cinquième jour de frappe entre Israël et l'Iran. Vous qui, depuis le Liban, observez, analysez et vivez ce qui se passe dans la région, est-ce que vous craignez une extension de ce conflit ?
Alors, on la craint toujours, mais elle est moins probable que ce que l'on aurait pu imaginer avant que ce conflit n'éclate. Pourquoi ? Parce que les alliés de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices irakiennes et Bachar el-Assad qui a chuté depuis, ont été très largement affaiblis depuis le 7 octobre, et que l'Iran n'a pas nécessairement intérêt pour l'instant à régionaliser le conflit, c'est-à-dire soit à activer ses alliés, soit à frapper directement, par exemple, les pays du Golfe, parce qu'il craint énormément une éventuelle intervention américaine en retour, sachant que le plan israélien, c'est d'entraîner les États-Unis dans cette guerre.
Donc il y a de façon presque paradoxale une forme de soulagement depuis le début de ce conflit, qui était tant attendu et tant craint. Anthony Samrani.
Alors, une forme de soulagement vu
par rapport à l'embrasement régional qu'on nous annonçait dans ce cadre.
Vu de Beyrouth, effectivement, parce que si vous voulez, aux yeux des Iraniens, le Hezbollah, la principale fonction du Hezbollah pendant des années devait être de dissuader Israël d'éventuellement frapper l'Iran. Mais les Israéliens ont procédé à ce qu'ils appellent la stratégie du poulpe. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord attaqué les tentacules les unes après les autres et désormais ils s'en prennent à la tête.
À quoi on assiste depuis vendredi de votre point de vue ? C'est une guerre majeure ?
C'est une guerre qui changera, à mon sens, le visage de la région, comme ce fut le cas en 48, en 67, en 73, ou encore plus récemment avec l'intervention américaine en Irak en 2003.
Oui, on est dans la lignée de ces guerres historiques, si je puis dire.
Oui, parce que pour deux raisons. La première, c'est parce que l'Iran, depuis 1979, depuis la création de la République islamique, a été une puissance qui a développé au fur et à mesure du temps un pouvoir de nuisance extraordinaire au Moyen-Orient, à une époque que les diplomates iraniens se vantaient de dominer quatre capitales dans le monde arabe. Donc on assiste à la fin très probable de l'ère iranienne et dans le même temps au début de l'ère de la toute-puissance israélienne. Et jamais dans l'histoire récente de la région, à ma connaissance, un acteur régional n'avait été aussi tout-puissant, n'avait eu la possibilité d'agir à sa guise sans aucune contestation possible.
On entre dans l'ère israélienne, c'est ce que vous nous dites, probablement.
Très probablement, et cette ère, elle est extrêmement inquiétante à mon sens. D'une part, en raison de ce qu'Israël est en train de faire un peu partout, c'est-à-dire à minima un nettoyage ethnique à Gaza, une accélération de la colonisation en Cisjordanie. Ils bombardent en toute impunité le Liban et la Syrie. Ces dirigeants ont des propos génocidaires. Ils ne cachent pas leur volonté de redessiner la région. Et contrairement à l'Iran, Israël a les moyens de ses ambitions. Contrairement à l'Iran, Israël est soutenu par les pays occidentaux. Contrairement à l'Iran, Israël est effectivement en train d'effacer un peuple. Je parle bien sûr du peuple palestinien.
Et tout ça en violation du droit international, c'est ce que vous constatez ?
Complètement. Je comprends tout à fait que la menace nucléaire iranienne était inquiétante,
elle existe,
si on a écouté des choses un peu imprécises ces derniers jours, c'est-à-dire que les Iraniens avaient suffisamment d'uranium enrichi pour éventuellement fabriquer une bombe, mais la décision politique de militariser cet enrichissement n'avait, à la connaissance de tous les experts sur le sujet, pas encore été prise.
Est-ce que vous y voyez clair dans les intentions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ?
Alors, je pense qu'il faut être très modeste depuis le 7 octobre parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et les Israéliens, il faut le reconnaître aussi, nous donnent le sentiment, ils l'ont fait au Liban, ils le font aussi aujourd'hui, d'avoir quelque part déjà fini le match alors que nous sommes encore en train de le commenter. Moi, j'ai l'impression que Benjamin Netanyahou essaye de refaire à l'échelle d'un pays de 90 millions d'habitants et qui fait 75 fois la taille d'Israël, ce qu'il a fait avec le Hezbollah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pousser coûte que coûte le régime iranien à capituler, donc à abandonner ses ambitions nucléaires et ses ambitions régionales, donc l'exportation de ses missiles et de ses milices. La grande différence avec le cas, enfin les différences pardon, oui. avec le cas libanais, oui. c'est que d'une part, comme je viens de vous le dire, c'est un pays de 90 millions d'habitants qui se situe
l'échelle n'est pas la même.
Hein. Voilà, qui se situe à plus de 1500 kilomètres, donc il est beaucoup plus difficile pour Israël de le bombarder massivement avec un appareil iranien de sécurité intérieure qui est très fort. Donc on parle beaucoup de changement de régime, mais pour changer ce régime, il faut qu'il y ait quand même une force sur le terrain qui puisse prendre les armes. Il n'y a pas d'opposition armée structurée en Iran, alors qu'il y avait un État libanais et des communautés libanaises qui étaient contre l'action du Hezbollah au Liban. Et l'autre différence, c'est que en Iran, pour réussir son plan, il a besoin des Américains, ce qui n'était pas le cas au Liban. Pourquoi il a besoin des Américains ? Parce qu'il ne peut pas détruire les infrastructures nucléaires iraniennes, notamment le fameux site de Fordo qui est enfoui sous les montagnes sans intervention américaine. Et il n'est pas certain que le régime accepte de capituler, quel que soit, même s'il élimine le guide suprême et qu'il est remplacé par un autre guide suprême.
Il en parlait encore, il y a quelques heures, Benjamin
c'est
Netanyahu.
C'est ça, sans une forte présence à minima américaine.
Une aide américaine. On s'interroge beaucoup sur l'attitude, l'implication, l'intervention des États-Unis. Ça veut dire que c'est de Donald Trump dont dépend la suite de cette histoire, Anthony Samranian.
Je pense qu'effectivement, sa décision... pour moi, il y a deux décisions qui vont être décisives. Donald Trump, clairement, la voie qu'il privilégie jusqu'à maintenant, c'est la voie diplomatique. C'est-à-dire qu'il veut, il considère que cette opération israélienne peut pousser les Iraniens à faire des concessions importantes sur le dossier nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Les Iraniens eux-mêmes, le ministre des Affaires étrangères iranien, dimanche disait encore qu'il était ouvert à cette possibilité. Les informations de presse disent que les Iraniens tentent de rouvrir des canaux diplomatiques. Et on pourrait trouver un arrangement, pardon de rentrer un peu dans la technique, dans quelque chose où l'Iran conserverait un droit d'enrichissement, mais ce ne serait pas sur son sol. Ce serait en partenariat avec d'autres États dans la région.
Donc il y a un canal de discussion possible, ou une sortie possible via les discussions, et les États-Unis pourraient appuyer là-dessus, et sinon,
si la guerre se prolonge, si les Iraniens peut-être bombent un peu trop le torse, est-ce que Donald Trump, qui est plutôt un isolationniste, dont l'électorat MAGA ne veut pas de nouvelle guerre, acceptera non pas de rentrer dans une guerre longue, mais de bombarder le site de Fordo ? La deuxième question qui est décisive, c'est du point de vue du régime iranien aujourd'hui, quel est le meilleur moyen d'assurer sa survie à long terme ?
Alors, c'était ma question, ça tombe bien. Merci Anthony. C'est de quel moyen dispose le régime iranien pour sauver sa peau, puisque c'est quand même une question existentielle pour lui qui
Alors,
se pose.
La particularité du régime iranien, c'est qu'il est extrêmement fragile. Le guide suprême est très âgé, le régime est honni par sa propre population, il est isolé diplomatiquement, ses alliés ont été un peu affaiblis dans toute la région.
Comme vous l'expliquez au début, oui.
Il a effectivement des missiles balistiques, on l'a vu, mais il a un stock limité de missiles balistiques, mais il est dans le même temps extrêmement résilient, c'est-à-dire qu'il peut tenir sur la durée. Ses moyens sont poursuivre son lancement de missiles balistiques, peut-être à terme activer ses alliés, ou activer des attaques terroristes, ou attaquer directement les pays du Golfe pour faire monter les prix du pétrole.
Donc il peut s'adapter. Le régime iranien peut s'adapter pour survivre.
Il peut considérer que le temps joue en sa faveur et que Israël ne pourra pas mener pendant des semaines et des semaines ce type d'opération et qu'il doit tenir, à condition bien sûr que les États-Unis n'interviennent pas. Il peut aussi considérer que le seul moyen de sauver sa peau est par la signature d'un accord. Je pense que les Iraniens aujourd'hui hésitent beaucoup entre ces deux options. C'est pour ça, d'une part, qu'ils cherchent à relancer la diplomatie et d'autre part, qu'ils sont sortis du TNP, qu'ils vont certainement essayer d'avoir la bombe au plus vite et qu'ils menacent d'embraser toute la région.